Chers frères et sœurs, pour ceux qui ne me connaissent pas, juste un mot de présentation. Je suis père de famille, nous avons deux enfants, nous sommes membres de la chapelle évangélique et j'ai un double ministère. Je suis directeur régional Alsace-Lorraine de l'Union d'Églises Perspectives, des Églises Une Mission et professeur de théologie interculturelle au séminaire théologique à Kishona près de Bâle. Alors ce matin, j'aimerais parcourir quelques versets avec vous d'un livre avec sept sceaux, l'Apocalypse de Jean. Je vous invite à ouvrir vos Bibles et je vais vous lire les huit premiers versets du dernier livre de la Bible. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses esclaves ce qui doit arriver bientôt. Il a signifié en envoyant son ange à son esclave Jean, qui a témoigné de tout ce qu'il a vu, la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. Heureux celui qui lit à haute voix les paroles de la prophétie, comme ceux qui les entendent et qui gardent ce qui y est écrit, car le temps est proche. Jean, aux sept églises qui sont en Asie, grâce et paix à vous de la part de celui qui est, qui était et qui vient, de la part des sept esprits qui sont devant son trône et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts, et le chef des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume, des prêtres pour son Dieu et Père, à lui la gloire et le pouvoir à tout jamais. Amen. Il vient avec les nuées, tous le verront, même ceux qui l'ont transpercé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à son sujet. Oui, amen. C'est moi qui suis l'alpha et l'oméga, qui est le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Chers frères et sœurs, je ne sais pas quelle association vous liez à ce dernier livre de la Bible. La génération 68 ans, c'était peut-être Apocalypse Now, un film de guerre de Vietnam. Pour moi, c'était peut-être plutôt le 11/7/2001, la destruction des Twin Towers à New York, et je me souviens exactement de cette soirée où j'ai commencé un nouveau ministère à Wissembourg, où je me suis posé la question, j'avais une première réunion avec les collaborateurs, où je me suis dit, est-ce que ce sera demain matin la fin du monde? Cette semaine, j'ai entendu à la radio une nouvelle discipline se répandre, la collapsologie. C'est un néologisme récent qui désigne l'étude de l'effondrement de la civilisation industrielle et de ce qui pourrait lui succéder. D'autres vont dire parmi nous, mais je suis fan du genre littéraire fantastique. C'est un genre Seigneur des Anneaux chrétien. Vous savez, ce sont les grands pavés que nos jeunes et moins jeunes aussi lisent, surtout pendant l'été, hein, 6 tomes à 1000 pages. On cite parmi les aînés, certains de nous connaissent encore Wim Malgaux et sa mission de l'appel de minuit, qui a attiré des foules à l'époque en Alsace, à la salle de la Bourse à Strasbourg. Qui est encore de cette génération? Ou qui a encore lu? Oh oui, vous pouvez lever la main, n'hésitez pas. Qui connaît encore le missionnaire et conférencier Marius Barr et ses livres? Marius Barr, mes beaux-parents le connaissaient assez bien. Et qui connaît encore M. Buller? Alors là, je voudrais quand même encore voir des mains se lever, hein? Parce que là, j'ai sorti de mon rayon eschatologique ce petit livret du Centre de culture chrétienne.
Mulhouse, c'est où ça? C'est ça? C'est à côté, c'est en dessous. C'était en dessous, hein, c'est ça.
Donc, avec le retour de Christ et millénium. C'est un petit survol qui montre un peu les différentes conceptions de la venue de Jésus. Quelle association tu lis à ce livre, cher frère, chère sœur? Les associations sont malheureusement souvent du ressort de l'angoisse, de la fin du monde. On a l'impression que c'est un message opaque, à corps tourné. Moi aussi, comme pasteur, j'ai rarement prêché sur l'Apocalypse. Où on laisse ce message entre les mains de quelques spécialistes évangéliques qui ont des idées très claires sur le retour du Seigneur Jésus. Mais dont les prophéties ne se réalisent pas toujours. Vous aurez des milliers de ces prophètes si vous allez vous autoradicaliser sur Internet. Le but de ce message ce matin, je voudrais, chers amis, vous dire, ce livre doit de nouveau devenir le best-seller dans nos milieux. Il était le livre best-seller au deuxième siècle, dans les premiers chrétiens. C'était le livre préféré lors du deuxième siècle. Et ce livre, je voudrais vous le rendre. Ce livre est accessible à tous. Ce texte veut dire que le ressuscité continue de se révéler afin que ses disciples puissent joyeusement attendre son retour. Le titre de ce message, le message de celui qui vient, j'aurai deux points, c'est un message pour tous et c'est un message de Jésus. Je commencerai avec un message pour tous. Au-delà des associations négatives envers ce livre, il y a des réels problèmes d'interprétation. Parce que c'est un livre unique dans la Bible, il englobe trois genres différents. Ce n'est pas un livre historique, ce n'est pas une lettre circulaire, ce n'est pas une prophétie. Ce sont les trois genres uniques qui font de ce livre un livre unique. Donc, c'est un genre littéraire unique, c'est d'abord une Apocalypse, verset 1, premier mot. Ensuite, c'est une prophétie, verset 3, et finalement, c'est une lettre circulaire, verset 4. Et vous expliquez rapidement les trois genres de ce livre. D'abord, l'Apocalypse, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses esclaves ce qui doit arriver bientôt. L'Apocalypse, c'est un terme très positif. Ça signifie dévoilement. Vous avez déjà assisté lors d'une inauguration, je ne sais pas, la statue du capitaine Dreyfus à Mulhouse, donc on enlève un drap, un tissu, et c'est ça qui signifie tout simplement apocalypse, dévoilement. Rien à voir avec le sens actuel du terme, très négatif, très fin du monde, très noir, film d'horreur. Non, c'est un terme positif qui signifie révélation. Ce livre est une révélation de Jésus-Christ. Si nous lisons ce livre, nous allons comprendre davantage de Jésus. L'Apocalypse ne veut pas nous montrer la fin du monde, mais l'Apocalypse veut nous montrer qui est Jésus. Ce genre littéraire, Apocalypse, apocalyptique, est déjà présent dans l'Ancien Testament, surtout chez Daniel et aussi Ézéchiel, et aussi dans beaucoup de livres qui sont hors de notre canon actuel. Et nous voyons ce genre littéraire dans le verset 7, « Il vient avec les nuées », c'est un extrait du livre de Daniel, chapitre 7. C'est un peu le texte apocalyptique de l'Ancien Testament par excellence. Mais qu'est-ce qu'un texte, qu'est-ce qu'un genre apocalyptique? C'est un dévoilement d'une réalité spirituelle à travers un médiateur d'un autre monde vers un destinataire humain. Ces révélations montrent une réalité invisible qui commence à se réaliser maintenant et qui court vers un but futur. En d'autres termes, quand nous lisons l'Apocalypse, nous voyons un autre temps, c'est l'espace temporel, et un autre monde surnaturel, c'est l'espace spatial, dans lequel le salut de Dieu s'accomplira. Évidemment, nous voyons tout de suite qui sont ces médiateurs dans le livre de Daniel et aussi ici, dans l'Apocalypse, dans le livre de Daniel, c'est le Fils d'homme qui apparaît. Et ici, nous voyons aussi cet homme dans le verset 7 qui apparaît dans les nuées, c'est Jésus. Deuxième genre de ce livre, c'est une prophétie, verset 3. Heureux celui qui lit à haute voix les paroles de la prophétie. Jean appartient probablement au cercle des prophètes de la province Asie. Il était certainement actif dans ces sept églises qui sont les destinataires de ce livre. Les prophètes prophétisaient habituellement culte, ce que Jean faisait aussi. Et Jean a transformé cette prophétie en une œuvre littéraire conçue pour être lue à haute voix pendant le culte. Jean, comme tous les auteurs des livres du Nouveau Testament, baigne dans la prophétie de l'Ancien Testament. Le prophète chrétien qu'il est reprend à son compte les prophéties de l'Ancienne Alliance pour les interpréter à la lumière de la venue de Jésus-Christ. Le but de la prophétie, il y a un double but, c'est d'abord un message pour le présent, pour aujourd'hui. Nous voyons ici les enjeux spirituels des sept églises nommées. Et c'est que dans un second sens que ces messages tendent vers l'avenir, vers l'accomplissement de l'histoire par la venue de Jésus en gloire. Il faut toujours à nouveau le souligner aussi dans nos églises, la prophétie, ce n'est pas d'abord un message du futur. 80% des textes ou des livres prophétiques traitent le présent. C'est ça, chers amis, la prophétie signifie que Dieu, peut-être même lors de ce culte, me dit un message clair et net à travers la parole de Dieu, à travers un chant ou une prière. C'est d'abord un message pour le présent et pas pour l'avenir. Et finalement, verset 4, c'est quand même aussi comme une épître, cet Apocalypse de Jean. C'est une lettre circulaire, Jean aux sept églises qui sont en Asie. Jean de Patmos s'adresse aux sept églises et garde donc d'abord la propriété d'une épître à ses destinataires. C'est unique. Et donc, nous devons lire l'Apocalypse d'abord dans cette perspective historique. Ce livre s'adresse d'abord aux sept. Mais évidemment, les spécialistes du symbolisme vont tous me dire « Oui, mais dans l'Apocalypse, sept veut dire quelque chose. » Et effectivement, le chiffre sept est souvent cité dans ce livre. Et ici aussi, il représente la totalité et probablement donc la globalité des églises du premier siècle. Donc les sept messages aux sept églises sont juste une introduction au reste du livre. Il y a un message personnalisé pour chaque église de l'époque, mais aussi une interpellation pour nous aujourd'hui. Donc le chapitre 4 n'est pas un nouveau thème, mais la suite après l'introduction des trois premiers chapitres. Quelles sont donc les fonctions de l'Apocalypse ou qu'est-ce que veut le texte susciter en nous du temps du premier siècle, mais aussi aujourd'hui? Deux fonctions. L'Apocalypse nous invite de lire ou d'analyser notre situation par ou à travers la perspective de Dieu. L'Apocalypse veut montrer une perspective divine du monde qui aide à affronter notre situation actuelle concrète. L'effet des visions de Jean est d'élargir le monde de ses lecteurs à la fois au niveau de l'espace jusqu'au ciel et temporellement jusqu'au retour de Jésus-Christ. Il veut ouvrir le monde à la réalité spirituelle. Allez, je le dis plus simplement. Jean nous montre le ciel afin que nous puissions discerner notre temps, mieux vivre en tant que chrétien et mieux servir Dieu. Qu'est-ce qu'on me dit, chers amis, quand j'ai un problème grave? Qu'est-ce que les gens me conseillent? J'ai un problème, je ne sais pas comment le surmonter. Alors après, les amis me donnent des conseils. Qu'est-ce qu'on pourrait me dire? Alors quelquefois, les gens me disent... Prends du recul, Qui a déjà entendu cela? Prends un peu de recul et comme ça tu verrais les choses différemment. C'est ça, chers amis, l'Apocalypse de Jean. Jésus nous invite de faire un immense recul, mais ce n'est pas un recul en arrière, mais c'est un recul en avant dans le temps et dans l'espace. Ça veut dire, si tu veux bien traiter ton problème, Jean-Georges, adopte la perspective divine, la vision du ciel, chapitre 4, la vision de l'agneau de Dieu, chapitre 5, et tu arriveras avec ce recul à voir ton problème différemment. Ça, c'est l'effet escompté qu'espérait Jean pour les lecteurs de son époque. Apprends à lire ta situation à travers la perspective de Dieu. Et la deuxième fonction de l'Apocalypse, c'est répondre à la question « Qui est le chef du monde ? Qui est le Seigneur du monde ?» Notre monde n'est pas dans un bon état. Le mal progresse. Les chrétiens souffrent. Dans nos églises, nous avons tous des personnes qui traversent des souffrances terribles. Et des questions naissent alors. Où est Dieu dans tout cela? Qui dirige ce monde? Où est le progrès du règne de Dieu? Je ne le vois pas. En dépit de toutes ces apparences, l'Apocalypse veut nous dire « Dieu règne ». Il intervient le temps venu pour renverser les empires et pour établir son royaume. Ainsi, les disciples reprennent courage par ce message d'espérance. Mettons-nous à la place de ces chrétiens à l'époque du premier siècle. Ils avaient beaucoup de problèmes. La pression a augmenté. Il y a les persécutions qui ont commencé par-ci et par-là. Les gens étaient éblouis par l'Empire romain, par ses prouesses, par son esthétique. Les chrétiens étaient dans des situations difficiles. Est-ce que nous devons nous soumettre à l'empereur? Soumission à l'empereur signifie l'adorer? Ou est-ce que nous allons refuser et risquer, payer un prix lourd, peut-être même payer avec sa propre vie? Les églises du premier siècle sont comme les églises, les sept ou les trois ici à Mulhouse. Ils ont des tentations, certains deviennent tièdes, certaines perdent leur premier amour. Ces églises étaient aussi dans ces situations-là. Donc, la deuxième fonction de l'Apocalypse, c'est clairement de dire « Dieu, il règne ». La question du roi des rois est depuis longtemps clarifiée depuis la croix et la résurrection de Jésus-Christ. L'Apocalypse nous aide à analyser notre situation à travers la perspective de Dieu et elle répond à la question « Qui est le capitaine sur ce bateau qui tangue aussi actuellement très fort ?» Donc l'Apocalypse est un livre pour nous tous. Bible en main, tu auras la meilleure grille de lecture de ce monde. Tu seras à la fois extrêmement lucide, mais aussi rempli d'espérance. Sans cette grille de lecture, il te manque l'espérance et la confiance en la vie et l'avenir. Et c'est pourquoi, chers amis, il est urgent de relire l'Apocalypse de Jean, peut-être tous les deux mois. Sans cette grille de lecture, tu ne pourras pas affronter ce monde, les défis actuels de ce monde, parce que tu seras enfermé juste dans la logique de ce monde. Et il te manque justement ce recul en avant. Nous vivons dans les derniers temps et cette vision divine sur ce monde. Donc c'est d'abord un message pour tous, c'est deuxième point. C'est un message de Jésus. Le centre de cette révélation ne sont pas les choses à venir, même si nous trouvons des indications sur les soi-disant choses dernières. Mais le centre de cette révélation, c'est Jésus, c'est Dieu le Père, c'est l'Esprit Saint, la Trinité. Et les trois personnes de Dieu apparaissent clairement dans ce texte. Lire l'Apocalypse signifie mieux faire connaissance de Jésus et ne pas devenir un expert du mal et un décliniste évangélique. Je le répète, lire l'Apocalypse signifie mieux faire connaissance de Jésus et ne pas devenir un expert du mal et un décliniste évangélique. Nous voyons les trois personnes de la Trinité, tout d'abord Dieu dans les versets 4 et 8, qui est, qui était, vient. C'est ici la révélation du nom de Dieu que nous connaissons, qu'a connu Moïse au buisson ardent. Nous avons au verset 6 le terme Dieu le Père, et au verset 8, c'est avec le verset 8 que ce passage est clos, où il est question que Dieu est l'alpha et l'oméga. Donc Dieu n'est pas seulement celui qui a mis le monde en route, hein, ce genre un peu de Dieu mécaniste, et après ça tourne tout seul, mais il n'est plus présent. Mais non, ce n'est pas ça. Hein. Ça, c'est la théologie des Lumières. Non, il est aussi l'oméga. Ça veut dire qu'il est aussi la fin de l'histoire. Et entre l'alpha et l'oméga, entre les débuts et la fin de l'histoire, il règne. Et nous avons ici aussi une affirmation claire de la Trinité, versets 4 et verset 8. Les églises sont saluées par cette salutation trinitaire. Preuve que ces doctrines étaient déjà clairement affirmées à ce temps-là. Mais la personne la plus importante que nous voyons ici de la Trinité, c'est Jésus. Il y a d'abord une formule tripartite dans verset 5, de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le chef des rois de la terre. On peut dire que ça correspond aux trois phases de la vie de Jésus. Le témoin fidèle, c'est la passion. Le premier-né d'entre les morts, c'est la résurrection. Et le chef des rois, c'est son ascension. Donc nous voyons Jésus le martyr dans le sens qu'il a payé. Il n'a pas seulement annoncé l'évangile, mais il a payé pour son message avec son sang. Nous voyons ici Jésus le ressuscité, deuxièmement, et nous voyons ici Jésus le Tout-Puissant. Le verset 5, dans la suite, il est question ensuite de son amour à celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Donc nous voyons à la fois la personne de Jésus, il est amour, c'est un attribut de Dieu, un des attributs les plus importants, et nous voyons son œuvre du salut par le pardon du péché. Et dans le verset 2, c'est la conclusion, c'est le témoignage de Jésus. Donc le centre de ce livre, c'est Jésus-Christ, c'est la prédication chrétienne. Et finalement, nous voyons un aspect très particulier dans le verset 7, maintenant ces deux citations de l'Ancien Testament. Il vient avec les nuées, tous le verront, même ceux qui l'ont transpercé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à son sujet. C'est donc un mélange de deux citations, Daniel 7, 13 et Zacharie 12, 10 à 14. Jean les reprend et met un nouvel accent. D'abord, la citation de Daniel, « Il vient avec les nuées ». Clairement, ça signifie la manifestation glorieuse de Jésus à la fin des temps. Et les nuages sont le symbole de sa puissance. Il vient, Jésus, ici, pas comme l'homme faible, comme l'homme incarné, mais il vient comme l'homme tout-puissant pour juger les hommes du monde. Tous verront, ça c'est la citation de Zacharie, tous le verront, tous les hommes et les femmes sur cette terre vont devoir braquer leurs yeux sur Jésus. C'est un regard forcé. Dans une situation, on aimerait fuir et se cacher. Tous, sans exception, vont reconnaître sur leurs genoux que Jésus est Dieu. Le jugement consiste dans le voir. Parce qu'actuellement, nous vivons dans le temps de l'écoute. C'est le temps de la grâce. Verset 3, « Heureux ceux qui entendent. » Celui qui peut entendre le message peut encore faire le choix pour Jésus. Mais ici, c'est trop tard, parce qu'il y a un regard forcé. Jésus a dit, quelquefois, celui qui a des oreilles, écoute. C'est un appel à l'écoute de son message et son acceptation. Et nous voyons dans Jean 20, verset 29, dans le récit de Thomas, Jésus dit à Thomas, « Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Nous vivons encore dans cette époque-là de l'écoute, le temps de la grâce. Mais ici, ce temps de la grâce est terminé parce qu'il y a le temps du regard forcé. Il n'a plus le choix. C'est la fin de la grâce et du jugement. Et ça veut dire que Jésus rétablira enfin la justice et son royaume. Je conclus. L'Apocalypse, c'est un message pour tous. L'Apocalypse, c'est une révélation de Jésus. Et pour conclure, c'est un message de joie. Les destinataires de l'époque, c'était les sept églises qui se trouvent aujourd'hui dans l'actuelle Turquie de l'Ouest, mais aussi nous, sept, c'est l'Église universelle. L'Apocalypse est un livre pour tous parce qu'ils n'auront pas malheureux, mais heureux. Et ce n'est pas un message de la fin du monde. Il est indiqué ici que le temps est proche, verset 3, car le temps est proche. Le temps est proche implique trois indications. C'est une indication du temps dans lequel nous vivons. Nous vivons la phase ultime de l'histoire du salut qui a commencé depuis Pâques. Donc, chers amis, vous n'avez pas besoin d'attendre le dernier temps. Il ne faut pas vous poser la question, est-ce que nous sommes dans les derniers temps, pas dans les derniers temps? Vous n'avez pas besoin de vous poser la question, est-ce qu'il y a des antichrists qui sont là ou pas là? Ils sont là depuis longtemps. Ils sont là depuis la venue de Jésus. La venue de Jésus a inauguré les derniers temps. Et nous vivons dans les derniers temps. Donc c'est une indication du temps, le temps est proche. Ensuite, c'est une indication du pouvoir. Ça veut dire que Dieu reste le maître aussi de ta vie. Il règne. Et c'est ça la consolation dans toute situation difficile et incompréhensible. Et parmi nous, il y a aussi des frères et sœurs qui peuvent peut-être plus croire en Jésus ou qui traversent peut-être des temps arides, qui ne veulent plus chanter « Je vais être saint, saint, saint », qui veulent plutôt fuir Dieu. Enfin, moi, ça m'arrive de temps en temps, peut-être pas chez vous. Eh bien, c'est un message très important pour dire Jésus, il règne, il reste, il est là, il reviendra, et c'est la consolation ultime dans toute situation difficile et incompréhensible, et c'est un impératif moral à l'engagement pour un monde en paix. Donc le temps est proche, c'est l'unique raison de notre bonheur. Jésus revient et il est proche. J'avais très longtemps un rapport très difficile avec l'Apocalypse. C'est que depuis peut-être 14 ans, à travers un commentaire où je me suis réapproprié ce livre. Et ce livre devient une force de consolation extrême pour moi actuellement, pour le devenir très personnellement. Oui, chers amis, je me fais des soucis. Le dernier rapport de ces experts climatologues du GIEC, que vous avez aussi lu dans notre journal, Paris aura la même température qu'en Canberra en 2050, plus besoin d'aller en Australie. Moi, j'ai deux fils. Je me pose quand même des questions. Comment va être leur monde en 2050, quand je ne serai plus là? Comment va être le monde de nos petits-enfants? Je me fais des soucis. Je croyais au progrès à un moment donné. Je me fais des soucis quand je vois le président des États-Unis et le président de la Chine. Où est-ce que ça va aboutir, cette guerre commerciale? Ça me fait mal d'entendre les nouvelles de notre pays, de notre chère France, de notre chère République, où nous pouvons vivre en paix. La violence qui est actuellement dans notre société ne me plaît pas. Je ne supporte plus de voir les informations de 20 heures. Je me fais des soucis pour l'avenir de l'Europe. Les droits de l'homme, c'est quelque chose. La démocratie, c'est quelque chose. Il y a 10 ans, il y avait la crise financière. Et je me suis rendu compte que je croyais toujours à ce paradigme que toujours croissance, tout ira mieux, un peu de croissance de plus, il n'y aura plus de chômage, un peu de croissance de plus et tout le monde sera heureux. Et aujourd'hui, je me pose même la question sur l'avenir de la démocratie. Peut-être je suis un type un peu vieillissant, hein, peut-être je deviens nostalgique, mais je ne le crois pas. Je ne suis pas du tout un décliniste évangélique. Je n'aime pas du tout, je n'ai jamais aimé ça. Mais je me fais des soucis. Et je me suis rendu compte que je me faisais trop de soucis parce que je n'ai pas assez lu l'Apocalypse de Jean, parce que j'étais emmuré dans ma logique humaine. Et je n'ai pas fait ce recul auquel Jean nous invite, de faire cet élargissement radical au niveau de l'espace. Jean-Georges regarde ce monde à partir de la perspective du trône de Dieu. Et cet élargissement aussi du temps. Jean-Georges, ne t'inquiète pas, c'est pas la fin du monde, moi je reviendrai. C'est dans ce sens que nous voulons nous réjouir aujourd'hui. Le message de l'Apocalypse de Jean met les choses au clair. Personne de nous n'a besoin d'avoir peur de l'avenir. Nous sommes des gens de l'avenir. Vous savez, nous ne parlons qu'encore en termes de poste. Post-opératoire, ça je connais parce que j'étais infirmier, c'est mon premier job. Mais aujourd'hui, on parle post-modernité, post-christianisme. Christianisme, c'est fini. Post-sécularisme, post-factuel, ça veut dire la vérité n'est plus importante. Post-esthétique, je dirais maintenant, aujourd'hui, comme chercheur. On ne parle qu'encore du poste. On est devenu que des gens qui regardent en arrière. Que encore des gens qui regardent en arrière. Les seules personnes en Occident qui ont encore une espérance, chers amis, c'est vous qui sommes assis ici dans cette salle-là. C'est vous les jeunes gens. Parce que vous allez vous marier. Mais qui va encore se marier si le monde va se cracher dans 30 ans? Vous allez prendre vos responsabilités en politique, dans les entreprises, dans les universités. Parce que vous êtes encore les seules personnes en Occident qui ont une espérance. Amen.
Merci Jean-Georges. Et merci de t'être présenté tout à l'heure. J'avais omis de le faire. C'était une bonne chose. Prions ensemble. Merci Seigneur d'avoir levé le voile sur ta grandeur, au travers de ce livre de l'Apocalypse. Merci de nous inviter à voir le monde et notre vie de ton point de vue à toi. Seigneur, c'est vrai qu'il y a des choses qui nous inquiètent, qui nous font peur, elles ont été évoquées. Et ce matin, tu nous dis de regarder ces choses d'en haut, de prendre du recul en tant que tes enfants, scellés dans ta famille pour l'éternité. Merci pour le soin que tu as eu d'inspirer ce livre de l'Apocalypse, de le placer dans ces Bibles que nous avons tous chez nous. Merci Seigneur de nous conduire à l'espérance, vers l'avenir, parce que cet avenir-là, il est entre tes mains. Béni sois-tu. Nous nous inclinons devant ta grandeur. Nous te disons notre confiance. Nous te disons même notre soulagement de t'appartenir. Et notre joie aussi d'appartenir à ton peuple. Ici, et partout dans le monde. Et en particulier, Seigneur, nous te prions pour nos frères et sœurs qui souffrent de la persécution, qui sont sous la pression de toutes sortes de personnes ou de systèmes religieux ou politiques. Montre-leur à eux encore plus qu'à nous ta gloire. Permets-leur d'avoir accès à ce livre de l'Apocalypse dans ta parole, qu'ils en comprennent au moins la teneur, même s'ils ne peuvent pas y accéder. Nous te louons, Seigneur. Amen.